semble prendre fin. Quelle est cette force qui revient soudain? Dedans et dehors se fondent sans peur. La vie et la mort baisent dans les cœurs. Elle est retrouvée, la liberté. Elle est retrouvée, la liberté. Le feu sur la mer s'allume et rougit. L'ardeur de l'enfer dans le paradis. Partir et rester, le large et le bord, l'angle avec la fée, le sud et le nord. Elle est.
Écran total sur les bords de ma peau, écran total sur nos remords. Que dire sinon s'enduire de tous les crimes? J'ai vu le ciel tourner au violet et les filles se faire aimer, la mort dans l'âme. C'est la chaleur humaine. Désormais, je me dors à dérir, je me dors à ténèbres, à la tyrannie du jour. Désormais, je me dors à dérir, je me dors à tes airs, à tous les luminaires, à l'endroit, à l'envers. À la chaleur humaine. Mes amours, je les ai sur le bout de la langue. Elles me reviennent à chaque frontière. Langue morte, langue de vipère, langue familière. La fermer, se taire, l'ouvrir, ça va sans dire. Désormais, je me dors à dérir, je me dors à ténèbres. Désormais, je me dors à l'endroit, à l'envers, à la chaleur humaine, à la chaleur humaine. Missile a élu domicile à l'hôtel de l'oiseau lyre. Que dire, laissez-vous dire. c'est la chaleur humaine. Désormais je me dors à tes rires, je me dors à tes nerfs, à la poussière des météores, à la chaleur humaine. Désormais je me dors à la crypte des monastères, je me dors à l'ordinaire, à ton beau ouvert, à la chaleur humaine.
À la fin d'une époque, un village au fond du Maroc, ils avaient pas tout bien compris. Qu'on leur voulait que du bien ma mère, à preuve on avait des prières, qui valaient mieux que les leurs, Paris. Mais eux, c'est mauvaise volonté, et puis tendance à comploter contre la patrie nourricière. Ces gens-là, c'est moins que des bêtes, faut leur enfoncer dans la tête, on verra qui c'est les plus fiers. Alors les avions en rase-motte font tomber mieux qu'à Gravelotte le feu, le fer, la fin du monde. Si bien que quand le soleil se couche, c'est un vrai bonheur pour les mouches, y'a que des macabées à la ronde. Quand viendra l'heure de Guernica, c'est Franco qui s'en souviendra, mais en passant, je vous signale que celui qui a inventé ça, c'était un bon soldat François, c'était un putain de maréchal. On le sait depuis Charlemagne, fallait pas inventer l'Allemagne, fallait la laisser dans ses limbes. Mais ça le manie, vieille habitude, on aime cela sauter bien rude, et y en a pas un qui rejeune. On part au front tout étoilé, de rires, de fleurs, de doux baisers, les femmes embrassent leur piou-piou. Mais ceux qui reviennent au village, ils sont finis, ils ont plus d'âge, quand ils sont pas restés dans le trou.
Ocho son negociam, och veninta del corpo che canto la flor. Flor de la intervinter ni esperan. La cinvenu c'è mi, aula grec, aula franca, e canto con mi. Persa ma voce e diranta del cor, esperanto.
Esperanto.
Pour des brunes, des prunes ou quelques monuments, que les marchands soient contents et qu'on chope la peste brune. Faudra se débarrasser de ces clics et s'inventer des pacifiques où on déposera nos mâles. Sur ces plages où certains jours on aura tant dansé l'amour que ça fera rire les étoiles. Sur ces plages où certains jours on aura tant dansé l'amour que ça fera rire les étoiles.
Yes. Donc, salut ton chiou qui est Eblen Kiaou, salut. Yes? Yes, il y a un qui est blé, salut on a le Uber qui ou est à scène tchéquio qui est blé au sculpteur Snin, il est sien, do yen, do est à sni à l'asta el sen, do antau la rencontige de Saint-Imier qui tiam et blé ni parolos laomi pri dou à faire ou nous et ti ou course au pré-espéranto qui ou finit juste nous, c'est nestas multo por diri. Kay an kaou e bleni parole au spri communum au char facte la communum de Paris au estis la commence on y peut dire de la fino de la communum de Paris on y peut dire estis la commence de tio iren conti joy de Saint-Imier pro tio qui est la fino de la uno internet si au estis la uno internet si au qui ou facte forigis bakounin kay qu'il James Guillaume qu'il protio quasis la uno internatio contra autoritat donc et bleni havos occasion de paroli pritio d'opri esperanto mi credas que Guy désiras paroli pri Georges Kersoudi hein c'est mi bonne c'est bonne comprenis yes qu'il poste do et bleni io mette parolos pri pritio Irene Conti joy des Saint-Imier qui est astio contra ou autoritat ay Irene Conti joy donc salut en chez
yes do facti do mi malbone ya las min yes mi ici là c'est bleni à casco ça se malbone connectita c'est de yes ça se io qui genas min Negras li parolos li parolos la grandio, yes, li vidos chuti o estas do chuti o facte bone funccios, yes, gis la fin, yes. Do, yen Radio Esperanto, yes, saluton Volito,
saluton qui?
Promenas, yes, do li meritas, mi yes, kai do Radio Esperanto qui est cultivé iom da malfruo havas cultivé sed ni preparis quelqu'un à faire en vie en éblé
peut-être pour traduire en français en fait on a
oui parce que je sais pas il y a quelque chose qui ah. Ouais, j'ai pas tout dans les oreilles, voilà, c'est pour ça que ouais, je doute de.
Mais là, tu m'entends ou pas, non tu
as... du son. Yes, mi bone audas tian vocion, amenao, tian vocion, c'est de miad.
Ah, d'où
miad, yes. Yes, c'est mi un chaos préparis, et blé, char, mi préparis la rapéronne pour paroli à Pouzzi, yes. Car mi estas tiel mal proximé des tsi que do tio genas min por
yes, Gershain
ni nur du farou tion el sendon yes
bon donc ce qu'on
mi chatas labori yes en pli da conforto yes.
Ah yes compris yes.
Voilà donc on est pas dans le confort là c'est pour ça que c'est on a l'impression qu'on n'a pas encore vraiment démarré mais ne vous en faites pas et bien comme je l'ai dit tout à l'heure des choses. Tu parlais de Kersoudi, effectivement, j'ai mis une petite brochure très fine hein, de
André Chapillot.
André Chapillot, hein, oui, sur Kersoudi, très fine, mais très, très pointue hein, sur la manière dont il jugeait Georges Kersoudi et son savoir. Voilà, comment il présentait son savoir et l'étendue de son savoir.
Oui, c'est ça. Quelqu'un d'à la fois modeste et très, voilà. Et très savant. Quoi.
Et donc, moi, par passe, on va dire. Je cherchais à me rapprocher de toi pour être. que ce soit plus convivial, tu comprends, parce que là,
Oui, nous sommes un peu loin.
On se voit loin par la fenêtre. J'ai pas la résonance de ce qu'il va y avoir. Je ne sais pas si tout est vraiment en ordre. Je ne sais pas si j'ai la possibilité aussi d'écouter tout ce qui est programmé, puisque j'ai cru entendre, malgré tout, malgré qu'on a pris l'antenne, j'ai cru entendre qu'on pouvait être reçu peut-être par des auditeurs, sur ce qui était en train de passer. Voilà. Malgré que j'ai. Voilà, je me méfie avec l'ordinateur. Hein. On peut très bien sortir de l'émission qui était sur l'ordinateur, donc ce qu'on appelle en bande passante un peu. Voilà. Et donc, et qui continue à passer. Malgré qu'on fait l'émission, ça continue à passer en second plan.
Oui, d'accord.
Voilà, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure dans mes oreilles.
Oui, donc c'est gênant, quoi.
Oui, que ça tournait, et donc ça peut être très, très gênant. Voilà,
oui, parce qu'en principe, on écoute avec un seul cerveau, quoi. Donc,
voilà, oui, donc
si on est obligé de séparer son cerveau en deux.
C'est que je me suis trouvé très, très mal. Voilà. Oui. Dorian, pacté, tamen, ni successos. Mi ros apud, apud si, si vous signez pas ce qui est mi racen la.
En la SNDIO même, yes.
Même, yes. Et en la technique aparto, c'est en la SNDIO pour la visitoi, yes, pour paroli, pour débatti. Puis, miros en si approximezzo, kai tiel, ni provos tranuile. Donc, vancam, mi ne vidas. Mi dubas que veni a olas min, char mi tute ne vidas iun signon, ki u montras, yes. Mi ne vidas, nun mi havas, kai nun, yes, mi ne scias, ki u
havas. Teknikaj problemoj.
Yes, teknikaj problemoj, estas. Voilà, donc, oui, des problèmes techniques, hein, assez importants, là. Je ne vois pas du tout qu'est-ce qui peut me faire barrage, qui ou facté.
Peut-être qu'on peut demander à quelqu'un s'il nous entend, quoi.
Mission, c'est de m'amomette, miné, aulas mi anotchon, tout simple. Yes.
Tu estas necese voci iun por si ĉu oni aŭskultas nin?
Yes, kiam si parolas, mi tre bone vidas signon de.
Sed ne kiam vi parolas, kiam si parolas?
Ah, kiam mi parolas, tute ne.
Ado.
Kio produktacion mi necesas.
Ĉu si volas ke ni telefonu al iu kiu kapablas ricevi tiun elsendon?
Ne, ne, mi iros. Sendon en la alia loco. Yes.
Bon.
Tiel mi esperas que oni vidos
audos.
Yes.
Do. Bon, alors ce qu'on disait en fait, c'est que ce serait notre dernière émission avant les rencontres de Saint-Imier. Hein, et donc, bah, on va en profiter un petit peu pour parler, disons, de l'espéranto. Pourquoi l'espéranto, les points de vue touristiques, culturels, les raisons pédagogiques, linguistiques, économiques, en quoi l'espéranto peut être intéressant pour la protection des cultures nationales et régionales. Peut-être un petit peu parler de la structure de l'espéranto, voir que c'est une langue artificielle et voir comment ça fonctionne et le rayonnement qu'elle peut avoir. Bon, ça, on va y aller très rapidement. Et par contre, Guy, je pense, veut parler de Georges Kersaudy, qui est vraiment quelqu'un d'extrêmement compétent, extrêmement savant, extrêmement modeste en même temps, quoi, qui s'est éteint en 2015, si je ne me trompe pas, quoi, qui est vraiment une personnalité exceptionnelle. Et puis évidemment, comme on parle des rencontres de Saint-Imier, eh bien, il faut savoir que ces rencontres de Saint-Imier, donc les premières rencontres ont eu lieu en 1872. On en a parlé la dernière fois. Et donc, les rencontres de Saint-Imier, en fait, sont liées au fait qu'il y a eu un conflit entre la Première Internationale autoritaire et les gens de cette Première Internationale non autoritaire qui ont voulu donc créer cette internationale anti-autoritaire. Et en particulier, il y avait eu l'exclusion de Bakounine et de James Guillaume. Enfin, peut-être qu'on va en parler un peu plus. Bon, c'est pas trop on va aller rapidement dessus, quoi. Alors, par quoi on commence, Guy ?
Alors. Voilà, donc. Donc, non mi esperas que mi audas povas audi mian vocion.
Same
kiel vi.
Ah, do.
Yes. Bone. Yes, mi bone audas mian vocion. Citie, yes. Yes, citie. En ordre. Georges Kersaudi, tiou facte li libretto, tiou brochuretto.
De André Chapillon.
Bastion. Estis Eldonita che la Blanchetière, yes, char estas la.
Eldonio,
de André Chapillon. Yes, yes, Chapillon. Li même Eldonas. Li même Eldonas. Yes. Kai.
Oui, mais pour ma solide qui on scribe André Charpillot en encyclopédie au prix Esperanto. Georges Kersaudi, donc Georges Kersaudi, on a scrit juste en 1900 d'Oudekounou, qui m'a la périssène 2000 d'Egvin, liestis extraordinaire à polyglotto, triun à l'éclairnis plurining voin latinidain, qui germanain. En 1936, il lernis Esperanton, kai constatis que la scio de tiu lingvo malfermas privilegian aliron al la etnolingvoi. De 1941 gis 1946, li studis en la Sorbonne germanan lingvon, usonan lingvon, kai civilizacion, scandinavan lingvon, scandinavan plural, scandinavan lingvon, kai literaturoin, kai romanan filologion. Sam epoche, ce la nazia lerneio pri la vivantai orientai lingvoi, li estis diplomita pri la lingvoi russa, romana, hungara, fina, kai acquiris bonan conon de quindeco de aliei lingvoi precise quindexes. Estas absolute incredible. Mi supposas che li lernis en... En inalco,
Yes.
Était mas pré inalco.
Yes, yes, yes.
Et Claborinte, chez la France, à ministerio de la Exterlanda Aferoi, li poste ferigis traducisto chez la Unuiginta Inazioi, kai chez la Concilio de la Europa Unio. Li plenumis officoin en diversae chef urboi sur quvar continentoi, partoprenante ancao en missioi en la tuta mondo, kai agante. Quel officiala fac traducisto c'è la appellazia cortumo de Pariso. Li estas autoro de Langues sans frontières, li estas autoro de Langues sans frontières à la découverte des langues de l'Europe. Lingvoi sen limoi, el covre el la Europa lingvoi en 2001. Tiu libro estas vere belega libro, kiu estas en la revuo Autrement.
Yes.
Mm-hmm. Mi havas ĝin ĉi tie.
Ah, yes, yes, yes. Grande libro kaj
bela. Interesega, interesega. Do tiu libro entenas kompreneble eksterordinaran sumon da informoj pri la eŭropaj lingvoj kaj ankaŭ pri Esperanto. Ĉu eble traduki tion aŭ en franca lingvo? Rapide, almenaŭ.
Yes, yes, rapide, yes, yes.
Donc, Georges Kersaudi, yes. 1921-2015, donc, est un polyglotte extraordinaire. Très jeune, il a appris plusieurs langues d'origine latine et germanique. En 1936, il a appris l'espéranto et il a constaté que la connaissance de cette langue ouvrait une une capacité en fait à aborder les autres langues, enfin les autres langues quoi. Enfin, je traduis rapidement. De 1941 à 1946, donc il a étudié dans la, à la Sorbonne les langues donc l'allemand, la langue anglaise, la civilisation, les langues scandinaves et leur littérature, la philologie roumaine. À cette même époque, donc, l'école nationale pour les langues orientales vivantes, je pense qu'il s'agit de l'INALCO, hein, c'est donc ça. Mmh, donc, il a été diplômé des langues russes, roumaines, hongroises, finnoise,
oui,
on pourrait dire finnoise.
Oui, hein, oui, oui, oui.
Alors les langues hongroises et finnoises sont assez proches en fait. Ce sont des langues, finno-ougriennes comme on dit. Hein,
voilà. Finno-ougriennes, voilà. Ouais.
Et il a acquis donc une bonne connaissance d'une cinquantaine d'autres langues, exactement 56 langues. Non mais c'est absolument délirant quoi. Alors comme il a travaillé donc au ministère français des Affaires étrangères, il est devenu donc traducteur au niveau des Nations Unies, hein, pour les Nations Unies, et sur le conseil de et au conseil de l'Union européenne. Donc il a rempli plusieurs offices, plusieurs fonctions dans différentes capitales. Sur quatre continents, participant à des missions dans toute la Terre, hein, et agissant comme un traducteur officiel, fact traduciste, particulièrement compétent, hein, auprès de la cour d'appel de Paris. Il est l'auteur de Langues sans frontières, donc Langues sans frontières, je ne sais pas si on peut toujours la voir aujourd'hui, c'est un ouvrage absolument magnifique, qui est aux éditions Autrement, donc ça c'est en 2001, donc Langues sans frontières à la découverte des langues de l'Europe, Langues sans frontières, il s'agit des langues européennes. Donc ce livre contient une somme absolument extraordinaire d'informations à propos des langues européennes et également au sujet de l'espéranto. D'ailleurs, à l'intérieur de ce livre, comme Kerso dit, il croit peut-être que tout le monde lui ressemble, ce qui n'est pas le cas, hein, mais il pense qu'en fait, avec une heure d'enseignement de l'espéranto, on peut réussir à comprendre un texte qu'il propose après, quoi. Et d'ailleurs, il y a même un moment où il dit, plus on passe de temps à apprendre une langue et moins on en sait, parce qu'il dit, lui, il a un cerveau.
Oui, alors là,
c'est absolument incroyable, quoi.
C'est difficile, là,
oui. Oui, c'est vraiment extraordinaire. À toi, Guy.
Donc, Miaï Memorajo, il prie Georges Kersaudi. C'est un cher Pio, hein, qui vous scribas en tiu caso. Do, minne suffice conis tiun exter norman homon, cae precipe mi conis lin tro malfrue. Yes. La degvin d'excessan de marto 2002. Unu monaton pli antaue li festis sian ogdec unuan nascidiaron. La esperantista gazetaro longue citadisline ocase de la tutte fresca apero delia dica libro Langue sans frontières, lingvoi sen limoi, priciu mi iom recensos pli poste. Tiun tagon, la esperantista asocio satabicaro inauguris sian novan sidejon ĉe la 134 bulvardo Vincent Auriol, kaj mi estis invitita ĉeesti ankaŭ George Kersodi Chestis. Yes, estas yes sa stranga char en cao estas dio tio provocas certe memoroin a Juliette.
Juliette
Ternop, yes. Char en cao mi Chestis. Kai yes por tio momento do juste mi Chestis. Yes, la yes. Degvinan dum du tagoi, la degvinan kai dexesan de marto du mil du. Kai facti li venis la omi du foyer, du postag mesoi, kai ben mi. Estis mi ki u choforislin.
Choforislin, yes.
Choforislin por partopreni al tiu inauguro. Yes.
Tessem li raconti selvit un anecdoton ki am iris en... En Indio, et bien raconte tout tien, ça reste à se faire amuser à faire.
Ah, yes, en Indio, ah, yes. Qui aime les transiris la dogan, non?
Yes, yes.
On y diris, videvas plenumi la.
Yes, la pas. Yes, la paperon, qui est
paperon pour la. Pour la
qui est scribi vienne religion.
Yes.
Qui est comme.
Yes, est-ce ce spazzo?
Yes, c'est ce spazzo portier, ok. Qui
on y la sou
si satéiste les ravis religion
c'est
amené insiste
tiens je dis si ça allez tirante n'est assez blanc et qui venait à vous religion
qui fin fin qui on y faris
à qui on y faris fin fin
raconte
ben les mêmes créis
propres
religion
yes
describis no mia religio la religio de la religio de la cuniclo
c'est cuniclo c'est qu'il y est tout est content et cool allez c'est tout
yes yes yes
c'est le problème
c'est
incroyable
yes c'est incroyable pour ni
et pour ni comprendre
ça c'est amusant.
Ah yes, ah yes.
Attends tout, on est des vases Ridi, hein, pour
Ridi, ouais. Un mieux Ridi d'esprit.
Pour Ridi, yes. Ah oui, donc bah, je pense à Juliette Ternan que l'on salue, hein,
oui, oui.
Qui nous écoute. Je pense que Juliette doit être notre plus fidèle auditrice. Hein.
Oui, puis en plus, voilà. il a dédicacé ce livre à. À ma mère, quoi, donc à Juliette.
Et on y était, nous, à ces dates-là, le 15 et le 16, durant deux jours, on a fait la fête pour l'inauguration du siège.
La Dexé Marteau en 2012.
En 2012, oui. C'était l'inauguration du nouveau siège de Satami Caro, voilà.
Ah oui, oui.
Satami Caro venait de quitter Avenue Gambetta.
Oui, oui.
Et puis se retrouver là-bas, donc dans le 13e arrondissement.
Oui, rue Vincent Auriol.
Ils sont toujours, rue Vincent Auriol, 134-136. Oui, voilà. Et donc, comme j'ai, durant deux jours, je l'ai voyagé pour l'amener le samedi et puis le dimanche, et puis, puisqu'il signait ce livre, justement, entre autres.
Hein, oui,
voilà.
Oui.
Et donc, sur le périphérique, comme d'habitude, on fait la queue, quoi. On a fait beaucoup la queue et puis tout ça. Et il m'a raconté pas mal de choses et tout. Et donc en Inde, à un moment, il a fait plusieurs voyages en Inde, mais entre autres un de ses voyages en Inde, on lui a demandé de remplir les papiers pour passer les frontières et puis tout ça. Donc et puis il avait des choses à remplir au niveau de la religion. Et lui, bon, il n'avait pas envie de dire qu'il avait une religion, il n'en avait pas, donc il fallait qu'il n'avait pas envie d'inventer. Mais il a compris que ça serait plus emmerdant de détourner la chose que de le faire, et il s'est dit je vais le faire à ma façon, quoi, hein, voilà. Mm-hmm. Et donc il a rempli dans la case religion le lapin, voilà.
Et c'est passé sans aucun problème, quoi.
Et nous, quand il nous a, oui. Il a raconté ça à plusieurs aussi, après...
De toute façon, ils ont bien l'éléphant.
On riait, hein. Oui, ils ont bien l'éléphant.
Ils ont bien Ganesh, hein,
alors donc, ça a passé, quoi.
Ah, voilà. Oui, ça a passé.
Ça a passé, c'était... Oui. C'est...
Alors là, dans le chapitre 23, donc, il parle de parce qu'il parle de toutes les langues d'Europe, avec tous les alphabets et tout ça. Hein. Il y a quand même six alphabets différents, hein. Et uniquement dans les langues d'Europe, hein, et donc dans la solution de la langue internationale, il met en exergue cette citation de Victor Hugo, « L'utopie, c'est la vérité de demain, hein. ». Mm-hmm. Il scribasse des... en tiu ĉapitro, la dudektria ĉapitro, la utopio estas la vero de Morgan. Et donc, bon, après, il fait donc tout un joli parole, esprit, avantage sur les autres langues, etc. Bon, on va pas le faire. Peut-être, j'ai quand même envie quand même de lire un texte en espéranto, parce qu'on va voir si ça marche, les gens qui ont écouté les leçons d'espéranto. Et donc, lui, il dit au bout d'une heure, on peut réussir à comprendre ce texte.
Oui.
Donc, il dira ce poste Unuhur. Bon, et bien, Unuhur, là où il dit, il crée ce qui est. Je suis une personne, je suis un sami intelligent qui lit, mais il crée ce qui est style. C'est donc, il y a un texte qui nous inscribas. Millions, tu sais.
Yes, yes.
Simple, flexible, vers Internet, si a un si a elementoi, la lingua esperanto. Presentas al la mondo civilizita la sole veran solvon de lingvo internacia. Ĉar tre facila por homoj ne multe instruitaj. Esperanto estas komprenata sen peno de la personoj bone edukitaj, mil faktoj atestas la meriton praktikan de la nomita lingvo. Eble tiuj kiuj aŭdis niajn lecionojn eble pouvez comprendre la sense de tu on traduit en français peut-être c'est assez simple.
Oui, on peut le oui.
Donc simple, flexible, vraiment oui. International dans ses éléments, la langue espéranto présente au monde civilisé l'unique véritable solution d'une langue internationale car très facile pour les hommes qui ne sont pas forcément très instruits. L'espéranto est compréhensible sans difficulté des personnes bien éduquées. Mille faits attestent le mérite pratique de cette langue en question. Mmh. Bon, je pense qu'effectivement, ceux qui ont écouté au moins les 3-4 premières leçons peuvent comprendre ça. Quoi. Voilà. Donc tu veux continuer sur Kersoudi peut-être?
Oui, sur la leçon, étant donné qu'on est dans l'heure, il est 18h, 18h07.
On peut, oui. Alors là, je vais noter.
On va parler un petit peu des leçons. Donc, on a fait un rythme de leçons, on en serait à la 16e, hein, c'est ça. Voilà.
Alors, je vais essayer de.
Les créneaux dont on a disposé, ça ferait qu'on serait la 16e leçon. Hein.
Voilà. Théoriquement, oui.
Oui.
Alors. Voilà ce qu'on avait. Bon, alors là, on ne va pas faire une leçon en tant que telle, mais enfin, on peut quand même faire un petit peu un résumé. Donc, on a fait une présentation succincte de la langue. Alors, pourquoi l'espéranto? Alors, les raisons sont aussi bien humaines que touristiques, culturelles, pédagogiques, linguistiques, économiques ou encore la défense des cultures nationales et régionales. Alors qu'au contraire, lorsqu'on décide de s'en tenir uniquement à l'anglais, c'est plutôt un appauvrissement des langues nationales et régionales. Bon, pour l'espéranto, c'est le contraire. Alors, les raisons humanistes, bon, ben, l'espéranto est une langue. Il ne s'agit ni d'une idéologie, ni d'une religion. Et puis, on peut retrouver chez les espérantistes, évidemment, toutes les idéologies, toutes les religions. Mais on peut quand même constater que... Enfin, du fait que c'est une langue qui n'appartient à personne, bon, il y a beaucoup d'humanistes chez les espéranto, quoi. Et puis, on peut aussi constater qu'en fait, bon, ce qui n'a rien à voir avec l'espéranto en tant que tel, c'est que Zamenhof lui-même était quelqu'un qui était profondément religieux, hein. Et donc, et donc, en particulier, bon, il a même été sioniste à un moment donné, puis à la fin, il était idéaliste, et la règle d'or qu'il avait pour cet idéalisme, c'était « ce qui est désagréable, ne le fais pas à ton prochain. Toute la loi tient en cela ». Bon, on ne peut pas trop reprocher ça, mais enfin, bon, même si l'espéranto n'est qu'une langue, hein, on trouve sans doute, évidemment, plus d'humanistes chez les espérantistes qu'ailleurs, mais enfin, évidemment, ça n'est qu'une langue, et on doit la considérer simplement comme telle, quoi, et se méfier des gens qui peuvent être sectaires, hein, parce qu'il y a aussi des gens qui peuvent être sectaires dans tous les domaines, y compris dans l'espéranto. Hein. Alors, les raisons touristiques et culturelles, bon, on sait que la langue commerciale du tourisme est l'anglais, hein, Mais par contre, l'espéranto est beaucoup moins répandu. Toutefois, ça permet un contact direct et authentique avec l'habitant. Alors, il y a toujours existé des clubs espérantistes dans les grandes villes, hein, mais il existe depuis 1974, donc avec le développement d'Internet, il existe ce qu'on appelle la passeporte à cerveau. Hein.
Donc, voilà. Oui.
Alors, au moment de sa création, il y avait seulement 39 adresses dans 19 pays. En 2010, il y avait déjà 1450 adresses dans 727 villes de 91 pays. Aujourd'hui, évidemment, c'est encore plus important, quoi. Alors, il suffit de taper sur Internet passeport à cerveau et puis vous pouvez tout à fait rentrer là-dedans. Bon, évidemment, la moindre des choses est quand même de parler quand même de baragouiner au moins l'espéranto pour pouvoir s'en servir, quoi. Alors, il existe beaucoup d'autres moyens pour enrichir les contacts, évidemment, tels que les congrès, par exemple, ou les rencontres. Entre parenthèses, au moment de Saint-Imier, on pourrait peut-être essayer, comme tu disais, de réunir tous les gens qui parlent l'espéranto. Hein, on va sans doute en trouver un certain nombre. Mmh. Et donc, peut-être qu'on va pouvoir aussi faire appel à ces gens pour pouvoir traduire dans les autres langues qui seront parlées à Saint-Imier. Donc, on va peut-être lancer un appel par rapport à ça. Hein, voilà. Alors, bon, ce que dit André Cherpillot, donc lui, il dit que... Mais évidemment, sur le nombre de personnes quoi, qui parlent espéranto, on ne peut pas savoir, parce qu'on ne peut pas le répertorier. On peut pas le répertorier comme on pourrait le répertorier pour une langue nationale. Il dit que 1000 auraient l'espéranto pour langue maternelle, donc c'est possible. Hein. 10 000 le parleraient couramment, 100 000 pourraient l'utiliser parfaitement. 1 000 000 en connaîtraient les éléments, bien les éléments, l'auraient déjà étudié. 10 millions l'auraient étudié, donc ça c'est ce que dit le livre Guinness des records, dit que il y aurait 6 millions d'espérantistes. Bon, c'est difficile à savoir. Évidemment, il y a les raisons pédagogiques, linguistiques, économiques. Hein. Celui qui apprend l'espéranto, bah, il va apprendre plus facilement d'autres langues, hein, puisqu'il va avoir un système grammatical qui va donc l'aider dans les autres langues. Bon, ça, on a des rapports qui sont faits dessus. Hein. On a le fameux rapport Grain dont nous avions déjà parlé ici. Hein.
Oui, tout à fait.
On ne va pas forcément traduire ce qu'on dit là, parce que c'est en fait dans le cadre de la leçon. Hein. Donc c'est un économiste suisse auquel ce rapport a été demandé. Donc comme souvent, on demande des rapports aux gens et après on n'en fait rien. Hein. Donc on doit sans doute avoir de l'argent en trop à dépenser, je ne sais pas. Et il note qu'en l'Angleterre réalise 17 milliards d'économies par l'usage du tout anglais. Dans les relations européennes, donc là on parle uniquement des relations européennes, et comme toujours, ce sont les moins riches qui paient pour compenser ce que n'ont pas payé les plus riches. Quoi.
Oui.
C'est quand même assez invraisemblable.
Oui. C'est comme ça que ça marche. C'est la force du rapport de François Grain, c'est d'avoir chiffré.
D'avoir chiffré, oui.
Voilà, il a chiffré son étude. Hein. C'est pour ça sans doute qu'après il n'y a pas eu d'écho et on ne lui a pas redemandé.
Alors le rapport Grain, on trouve facilement sur Internet, il suffit de taper rapport Grain, on trouve en entier, donc on ne va pas insister davantage dessus. Hein. Alors sur le plan de la fidélité des traductions, on peut mentionner une très vieille expérience qui avait été faite par un auteur français, Tristan Bernard, à partir d'un texte de Abel Hermant, enfin peu importe, le texte donc avait été traduit en italien, donc, le texte français, hein. Il a été traduit en italien, en espagnol, en anglais, en allemand, en russe et en espéranto. Puis une équipe de 6 autres traducteurs a retraduit le texte en français.
Mm-hmm.
D'accord. Et donc la retraduction en espéranto était identique avec seulement l'addition de 2 nouveaux mots. La traduction en italien était presque aussi bonne. En espagnol, il y avait quelques erreurs importantes tout de même, mais elles étaient relativement limitées. Quant aux retraductions en anglais, c'était vraiment très mauvais. En allemand et en russe, c'était très mauvais. Quoi. Voilà. Alors bon, citons simplement Umberto Eco, hein, d'un point de vue linguistique, qui lui, au départ, était défavorable à l'espéranto, hein, qui s'est mis simplement à se dire, quand on parle de quelque chose, ben, autant connaître ce dont on parle. Hein, c'est contrairement aux journalistes de BFM TV, on parle de tout et de n'importe quoi, mais on ne sait pas de quoi on parle. Quoi. Donc lui, il s'est dit, bon, j'ai quand même demandé à un étudiant, à un de mes étudiants, d'apprendre l'espéranto pendant un an. Hein. Et donc, il a fait cette expérience, et donc il arrive à cette conclusion, l'espéranto obéit véritablement à d'admirables principes d'économie et d'efficacité. On était intervenu aussi dessus pour parler du principe de nécessité de suffisance. Donc c'est
on avait déjà parlé
dans une. Évidemment, bon, la protection des cultures nationales et régionales. Hein, bon, l'impérialisme linguistique anglais ne peut que conduire à un globish de mille mots pour les gens ordinaires, hein, au détriment de la diversité des cultures. Et Claude Agege l'exprime ainsi, ce phénomène de perte est dramatique. La langue anglaise est une menace, pas seulement pour les langues, mais aussi pour les cultures, hein, évidemment. Mm-hmm. Langue-culture, les deux sont liés. Hein, et André Charpillaud donc, ajoute, et là c'est même, on peut dire, il ajoute ça quasiment au profit de l'anglais, hein, enfin, pour valoriser l'anglais, même la civilisation anglaise ne résistera pas à ce tsunami culturel. Car la langue imposée à toutes les planètes, la planète n'est pas la langue de Shakespeare, mais un jargon étranger à toute culture, seulement capable d'exprimer des arrangements commerciaux. Donc effectivement, on est... André Charpillaud, quand il parle, il n'a pas trop tendance à se gratter, quoi, mais bon, il dit ce qu'il a à dire, quoi. Alors,
Claude Agege, au début, il était aussi contre l'espéranto.
Il était aussi contre l'espéranto. Puis
contre
après,
l'espéranto. Surtout quand il a vu que, effectivement, comme tu l'as expliqué, Umberto Eco, il a mis un de ses élèves sur le coup. Hein,
absolument.
Sur le coup, et c'est lui qui a fait d'ailleurs le a exposé son travail au Collège de France. Hein.
Tout à fait.
Et donc, Claude Agege, à partir de ce moment-là, il a commencé à tourner un peu les talons et puis à...
Ben c'est ça. D'ailleurs, en fait, Claude Agege, si tu veux, est devenu favorable à l'espéranto, même pas par rapport à la capacité de communiquer avec toutes les personnes du monde. C'est vraiment pour des raisons linguistiques, lui. Il s'est rendu compte, on démonte le phénomène linguistique et ça permet en fait d'avancer dans les autres langues, quoi. C'est même pas. C'est pas pour la passeportation qu'il est intéressé.
Il a dit, c'est la langue la mieux faite au monde, il a dit.
C'est pas fou, hein. Donc, alors après, au niveau de la structure, quelques éléments simplement, mais très rapides. Est-ce que c'est une langue latine? Oui, c'est un petit peu une langue latine au niveau du lexique, hein, puisque 93% des mots sont compris par un latin, 90% sont compris par un germanique, et 43% sont compris par un slave. Donc, par contre, pour ce qui est de la structure, eh bien, nous en avions parlé aussi, des trois sortes de langues. Il y avait des langues flexionnelles, dont les racines étaient instables, hein, c'est ça que ça veut dire. Hein. Il y avait des langues agglutinantes dont les racines sont stables, et ensuite on rajoute des terminaisons, ou des préfixes, des suffixes, on peut faire des mots composés, mais la racine elle-même ne change pas. Hein, donc, et donc ça permet effectivement, à partir d'une racine simple, de générer beaucoup de mots différents. Quoi, voilà. Et puis on avait vu également que... Pour le chinois, par exemple, on a vu que le chinois est une langue isolante, en fait, qui pose des mots les uns à côté des autres. Ces mots qui peuvent être considérés aussi bien comme des affixes, des préfixes, des suffixes, etc., mais qui sont des mots à part entière, eh bien, l'espéranto fonctionne aussi de la même façon. Et donc, quelque part, un chinois, évidemment, aura plus de difficultés puisqu'il devra intégrer un alphabet qui n'est pas... ce ne sont pas des pictogrammes, quoi. Il doit réellement intégrer un alphabet, mais en même temps, il peut considérer les racines comme des mots. Hein. Je me souviens d'un prélègue de Varinguin au moment du centenaire de la Commune de Paris.
Oui. Hein,
il avait fait il y avait le congrès de Sade à Paris. Et il avait fait un prélègue où il avait fait une causerie. Varinguin, il expliquait ça d'une façon très 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 très, très documentée. Quoi. Moi, j'avais 17 ans à l'époque, mais je veux dire, ça m'est vraiment resté. Quoi. Donc l'espéranto, langue agglutinante et puis isolante en même temps. Quoi. Alors effectivement, c'est bien une langue artificielle et les langues artificielles, sont assez on peut de chance de devenir international pour des raisons qui sont à la fois politiques, militaires, etc. Donc l'espéranto effectivement rentre dans cette catégorie, mais elles ont aussi du mal à devenir des langues internationales à cause du caractère, disons, du problème simplement linguistique en tant que tel, quoi. Et c'est vrai que ça fonctionne pas, parce qu'en général, les grammaires sont trop rigides, hein, et inadaptées. Hein. On sort toujours à la même contradiction que définissait Pascal. Enfin, c'est moi qui maintenant vais parler de Pascal, qui suis athée, je parle de Pascal, mais enfin, peu importe, je veux dire, il parlait de l'esprit de finesse et de l'esprit de géométrie, quoi. Mmh. Et en fait, on s'aperçoit que l'espéranto, ça marche. Pourquoi ça fonctionne? Parce qu'en fait, il y a à la fois l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie, quoi. Donc c'est parce qu'en fait, Zamenhof est à la fois un linguiste et un poète. C'était aussi un scientifique et un homme de bon sens. Hein. C'était un médecin rigoureux. Il était médecin, il était oculiste. Hein. Mm-hmm. Un médecin rigoureux et en même temps un praticien. Donc en fait, il avait tout le temps ces deux aspects. Et si on n'a qu'un seul de ces deux aspects, on ne réussit pas à fabriquer une langue. Quoi. Et c'est ce qui s'est produit, en fait. Donc l'espéranto est la seule langue qui fonctionne, la seule langue internationale qui, artificielle qui puisse fonctionner. Quoi. Alors, on avait vu aussi, on avait parlé également du fundamento, donc qui posait quatre grands principes: la facilité d'apprentissage, la richesse de l'expression, parce qu'il ne faut pas que la facilité d'apprentissage soit aux dépens de la richesse de l'expression, bien entendu, ça c'est important. Et puis le caractère aussi international que possible du lexique et des structures. Et puis la capacité également d'évoluer en fonction des progrès de la pensée, des techniques et des découvertes scientifiques, quoi. Voilà. Alors donc voilà un petit peu ce qu'on avait dit, quoi, par rapport. Alors au niveau du rayonnement, bah donc on voit que par rapport au nombre relativement faible d'espérantistes, bah, y a quand même beaucoup de bibliothèques et de musées. Hein, c'est quand même très, enfin par rapport à la dimension, c'est vraiment énorme, quoi, par rapport. Et donc il y a également des œuvres originales, et ça dès le départ, hein, on a eu des œuvres originales dans tous les domaines et dans tous les pays. Hein. C'est aussi la force de l'espéranto, c'est que il s'est pas répandu de manière internationale, parce qu'il n'y a pas des milliards de personnes qui se sont mis à le parler, mais par contre tout de suite il a séduit des gens dans tous les pays et de toutes les conditions sociales. Alors on peut dire qu'avant la Première Guerre mondiale, ce sont surtout des bourgeois, des gens cultivés, des gens qui sont privilégiés, quoi, qui apprennent l'espéranto. Mais à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale, et ben donc on a également des ouvriers qui se mettent à apprendre l'espéranto. Et d'ailleurs, bon, c'est également ça qui en fait permet de créer SAT, Sennatsiet, ça associe au tout le monde. Hein, donc voilà. Donc alors bon, au niveau du rayonnement, on va pas insister plus que ça, mais en décembre 1952, donc là c'est très loin. Donc la direction générale de l'UNESCO donc évoquait une pétition de 15 450 780 signatures. Je ne sais pas compter une par une. Qui était favorable à l'usage de l'espéranto, et donc cet appui a été constant, et en 1985, la conférence générale de l'UNESCO appelait de nouveau les États adhérents à favoriser l'introduction d'un programme d'études concernant le problème linguistique avec l'enseignement de l'espéranto dans les écoles élémentaires et supérieures. Après, ce qu'il faudrait peut-être dire aussi par rapport à l'espéranto, c'est que il y a des raisons à la fois passives et des raisons actives de ne pas l'enseigner. Et je pense que les raisons actives, c'est qu'en fait, les gouvernements ne doivent pas énormément apprécier que les gens se comprennent, parce que s'ils se comprenaient, ils auraient peut-être moins d'intérêt à se taper sur la gueule les uns les autres, quoi. Je crois que c'est un petit peu ça qu'on peut dire, quoi. Donc voilà très rapidement ce qu'on peut dire donc, par rapport à l'espéranto. Est-ce que tu veux continuer sur Kersony, ou est-ce que nous continuons sur les rencontres de Saint-Imier?
Peut-être un peu sur Kersony encore.
Un peu sur Kersony, oui, d'accord.
Bon, effectivement, au début, hein, on va dire André, il raconte comment il l'a connu. Et il se rend compte tout de suite que Kersony a fait des études de langue très très tôt. Hein.
Oui.
Voilà. Alors, il dit par exemple... Doyen, par Hollande t'es pris Kersody, cher Pio, tirastion, mi exis, qui est li, qui est Kersody, hein, li, comme insistian carrieron, et la ministerio de la exterlandaia ferroia. Kai, qui est li, occupis, postenoin en Moskvo kaj Belgrado kaj ankaŭ en diversaj ĉefurboj de la kvin kontinentoj. Poste li estis tradukisto ĉe la Uniĝintaj Nacioj, ekzakte kiel Claude Piron. Au parallèle, ni dire alia alstara figuro de l'esperantista mondo. Tiu funcioi causis que Georges Kersaudy effectivigis tradukoin kaj revizioin tute oficiale ec de kvindeko da lingvoj. Oui, effectivement, donc il dit que quand il a fait connaissance de Kersaudy, il a tout de suite su que Kersaudy avait commencé sa carrière au ministère des Affaires étrangères, et puis il a occupé des postes dans des grands lieux importants, des capitales comme Moscou, Belgrade, mais et puis aussi dans divers villes des cinq continents, divers grandes villes des cinq continents. Après, il a été traducteur aux Nations Unies, et exactement comme Claude Piron. Claude Piron, je crois qu'il a beaucoup travaillé à l'OMS aussi.
Il est né en 1931, il est mort en 2008. Ils ont ils ont à peu près le même âge tous les deux. Ils ont un parcours qui est assez, ils se ressemblent pas mal.
Oui, exact. Oui. Alors, il dit Claude Piron, qui est une autre figure éminente du mouvement.
Oui, il était l'Organisation mondiale pour la santé les cinq continents.
L'OMS, oui. Donc, il dit que ses fonctions ont fait que Georges Kersaudy a produit des traductions, des révisions entièrement officielles à partir d'une cinquantaine de langues. Voilà. C'est puissant, hein, voilà. Donc, li racontis al mi, que li estis degvin iara, quiam li elcovris, que la tsio de Esperanto malfermas privilegiain aliron al la lingvoi de centra Europo. Cai etch al la ne Europai lingvoi. Mi exis, que de 1921 gis 1926, li ricevis en la Parisa Sorbono diplomoin pri rumana filologio. Yes, pri germana lingvo ankaŭ, pri usona literaturo kaj civilizacio, kaj ankaŭ pri modernaj skandinavaj skandinavaj lingvoj kaj literaturoj. Yes, kaj kvazaŭ ĉio tio ne sufiĉus por satigi lian exterordinaran soifon de linguisticae scioi. Necesis que li visitadu dum la sama tempo la nazian lerneion de la vivantai orientai lingvoi. Tie li ricevis diplomoin pri la lingvoi russa. Si jus diris, russa, rumana, hungara, kai, yes, multai aliai lingvoi, kai fina, yes. Et effectivement, donc, il raconte que Georges Kersaudy lui a raconté avoir découvert à l'âge de 15 ans que la connaissance de l'espéranto ouvrait un accès privilégié aux langues d'Europe centrale et orientale, et même aux langues non européennes.
Oui, c'est en 1931, effectivement, il avait 15 ans ou 16 ans.
Oui, alors je recherche. André Cherpillot dit j'ai appris que de 1941 à 1946, il avait obtenu à la Sorbonne des diplômes de philologie roumaine, c'est d'allemand, ça. De littérature, oui, de civilisation américaine, ainsi que de langue et littérature scandinave moderne. Et comme tu l'as annoncé.
Oui, il est en 1921, donc en 1936, il y a 15 ans. Quoi.
Avec beaucoup d'autres langues, des diplômes de russe, de roumain, de hongrois, de finnois, etc. Oui, voilà. Alors, Georges Kersaudy jouis prix né ordinara memoro en la faco de la lingvoi. Alquiu faco li directis grande gan intereson. Les volontés d'iris super dec lingvoi acquiri plia in lingvoin. Estas tre facila.
C'est
Voilà. Oui. Alors effectivement, il a obtenu des diplômes, etc. En masse, et il avait une mémoire peu ordinaire hein, dans le domaine des langues, domaine pour lequel eh bien, il éprouvait un immense intérêt. Il aimait dire au-dessus des 10 langues, il devient très facile d'en acquérir d'autres.
Oui, c'est de la rigolade. Enfin, il suffit d'en connaître 10, quoi.
Oui, il ne faut même pas regarder. Quoi, oui. Alors visiblement, c'était vrai pour lui, mais si on songe que des centaines de milliers d'élèves de nos lycées ont passé une quantité incroyable d'heures à apprendre l'anglais et ne sont capables que d'en annoncer quelques phrases, on conviendra que cette assertion, n'est nullement généralisable et qu'elle prouve que Kersaudy avait une bosse des langues d'une taille, bosse des langues entre guillemets, d'une taille impressionnante. Effectivement.
Oui, c'est ça.
Donc, ça c'est lié à Ipuntoi et très très gravail pris Georges Kersaudy li cher Pio di Rastion mire rencontigis con Georges Kersaudy en post octobre en Le Mans chez la salono de la libro trovigis buto di digital la propagando pri Esperanto Kersaudy ne prevolis parto pri NG porni a play granda joyo iam iu japano proximi jazz por fari quelcain demandoin, pri Esperanto, tui Kersaudy al parolas lin en japana lingvo. Kai titi en le monde, dit, estas en la regiono, qui est l'ojas, qui est l'ojas André Cherpillot, d'où en la... En la loco même, qui est Cherpillot, trop vidas, ça c'est où salon, yes.
Il y a des gens comme ça qui tout paraissent
simple. La Yapana, bon, les parents là. Oui. Nous, il y a un qui a déclaré Gaspri Esperanto, tout simple. Qui a encore dit race. Yes, qui a atteint tout, car Tiou, Brochuretto, et ça c'est Cherpillot, qui a Cherpillot, encore, li, Cherpillot, donc on a cela. Pictogramme, oui. Est-ce qu'il connaît la pictogramme et encore, etch, per la computilo, taipas, ilin.
Ah, yes.
Yes.
Et il y a un qui connaît ça, c'est Branding, voilà. C'est de. Qui a souligné les paroles, c'est Branding, voilà. Qui a Cherpillo dira ce phrase en la Branding, qui a tout. Quand comme l'idée connaît la lingua, ni tout capable à strado qui ont des iris.
Ah, yes,
yes. Désolé, ça se verrait incroyable. Donc, il y a une.
Bah, yes, oui. Yes, et là, c'est qu'il y a une brochuretonne, yes, qui est très, très intéressant. Je trouve ça.
Esperanto France.
Yes, je trouve ça, il y a une.
Rue de la Cerisaie.
Yes, il y a.
T'amènes langue sans frontières, autrement, mais si tu veux, on y peut encore.
Oh, yes, là où il y a un. Yes, un satami caro. Un satami caro, là où il y a.
Ça s'intéresse également.
Est-ce tous encore quelqu'un numéro une IHD.
Donc, Ebleni, nous n'y pouvons pas parler, il y a même été pris la congrès au des. La reine Contige était Saint-Imier.
Yes. Donc, encore, lire rapide, les paroles finées des Tiou Brochuretto, les Cherpillot paroles pris la libro qui une.
Yes, absolument. Yes.
Donc, ce jean, qui est mi vidas jean en tao via au couloir, donc sans frontières, qui lit des détails, donnas détails, l'on, yes, pris. Pritio, do estas dicalibro, yes, li mencias tion. Gi estas dicalibro de 383 pagioi, por esti tre precisa.
Yes.
Eldonita en 2001, cae fare de eldonio autrement si presentis. Presentis tion. La unua parto estas inventaro de la naziai de la nazioi de Europo, yes.
Yes.
Oni tie pritractas la familioin de lingvoi. Neniu lingvo, ecce se tre malgranda, estas preter la cita. Ĉu temas pri la Malta, la Moldava, la Soraba, aŭ la Azera, cetere oni precizigas ke el la 340 milionoj loĝantoj de la Eŭropa Unio, 20 milionoj parolas regionan lingvon, alian ol la majoritata lingvo de la lando. Estas rimarkinde ke la vortoj de ĉiuj lingvoj estas skribitaj en sia aŭtenta skribo, ne simple transskribitaj en latinan skribon. Voilà, donc il parle du livre, il dit c'est un gros livre, hein, 380 pages, 83, bon. Mmh. Alors édité en 2001 par les éditions Autrement, ça tu l'as annoncé oui, tout à l'heure. Tout, oui. Le sous-titre est à lui seul tout un programme, il dit, parce que des faits méconnus, des idées reçues, des aspects nouveaux, des problèmes et solutions, des méthodes d'apprentissage, des vocabulaires parallèles de 39 langues d'Europe.
C'est ça, vocabulaire parallèle de 39 langues d'Europe.
C'est colossal, ça, oui.
Absolument.
La première partie est un inventaire des nations d'Europe. Il y est traité des familles de langues.
Oui,
aucune langue, si petite soit-elle, n'est négligée.
Tout à fait.
Qu'il s'agisse du maltais, du moldave, du sorabe ou de l'azéri. Il est d'ailleurs précisé que sur les 340 millions de citoyens de l'Union européenne, 50 millions parlent une langue locale autre oui. que la langue majoritaire de leur pays.
Donc,
il est à noter que tous les mots de toutes les langues citées sont écrits dans leur écriture authentique et non simplement transcrits en écriture latine.
Oui, dans les six alphabets, en fait, dans les six alphabets des langues européennes. Donc il y a un vocabulaire parallèle des sept langues latines et de l'espéranto, ensuite un vocabulaire parallèle des sept langues germaniques, donc anglais, allemand, néerlandais, suédois, etc. quoi. Et ensuite, on a un vocabulaire parallèle de 10 langues slaves, russe, ukrainien, biélorusse, polonais, tchèque, slovaque, bulgare, macédonien, serbo-croate, slovène. Et après, on a... et toujours, c'est écrit effectivement dans l'alphabet de la langue concernée, quoi. Et ensuite, il y a même un vocabulaire parallèle de 3 langues celtiques, le breton, le gallois, l'irlandais. Hein, donc c'est quand même... Bon, c'est magnifique, hein, ce qui est... Et ensuite, à la fin, donc, il y a un vocabulaire parallèle de 5 langues indo-européennes et du turc osmani. Donc, lituanien, letton, grec, albanais, arménien, turc. Donc,
Ah oui, c'est colossal. Hein. Oui,
c'est,
oui,
absolument, oui. C'est absolument colossal.
Oui, 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 oui.
Et donc, il y a un vocabulaire ensuite parallèle de 5 langues d'Europe non indo-européennes. Alors, il y a le hongrois, le finnois, l'estonien, le basque. Le géorgien, alors le géorgien, c'est un alphabet qui ressemble à rien du tout. Hein. Ouais, c'est comme l'arménien, hein. tu peux vraiment. Et à chaque fois, il le met donc dans l'alphabet. Enfin, c'est vraiment un livre qui est absolument magnifique. Quoi. Bon, que je dis qu'il est magnifique, alors qu'en fait, je n'ai lu que des passages. Mais enfin, il faudra qu'un jour où j'aurai l'intelligence et la mémoire de Carcelli, mais ça risque pas d'arriver. Il faudra que je me le tape vraiment.
Il faut du temps. Hein. Voilà, donc tout est très bien répertorié hein, dans cette petite brochure de ouais, qui fait 20 pages, on va dire, voilà. Même pas les 20 pages.
Oui,
voilà.
Oui. Oui, mais c'est bon, c'est vraiment André Charpillot, c'est un... Voilà. Il fait toujours un bon travail. Je ne sais pas si on a le temps de passer une musique avant ou qu'on passe directement, en fait, aux rencontres de Saint-Imier.
On peut passer une musique avant
ouais. Oui, si tu veux.
Moi,
oui.
je peux aller passer une musique parce que on entend ma voix d'ici dans le studio. À la technique, c'est un peu plus difficile, mais à la technique, par contre, les appareils...
Peut-être que les auditeurs commencent à être saoulés de nous entendre parler aussi longuement, quoi.
Ils sont morts. ils sont morts, là. Oui, c'est normal. Oui, oui. Voilà. Bah, écoute, je fais une dizaine de mètres, et puis je vais me retrouver là-bas.
Oui, pour un sportif comme toi, c'est pas... Ça voilà. Doit se faire assez rapidement.
Oui.
In Gothenburg hat es mi, ke ennam mi jes mi. Vi rides nur, dires frenes ulo vi, se credes ne al mi. Hai endechim, mi vokes vi anomon, rifuses vi, la amon ankaumin. Propones mi, renkonton dum venanta ja, ni iru al uko. Comune ironie al venius, ciutat con juvo, bella estus ja con vi. Sole estes mis en via am, miai sorgoi fulas, ciu vi acceptos min. Comune gioia plena e vivu nimes nocte cae me tage, quin caressi volas mi. Ciu fine giu en ciela lit, nidu en accordo en bella venius. Timis mi, fracasita mia plan, cae prescaus venes mi. Sed rides vi, cae voces mia nomon, acceptes vi, la amon ancau min. Proponas vi, vivi cie nova par, en bella venios. Comune est unien venios, ciuta cum tubo, bella estas ja por vi. Cune en la amo ob con vi, mia coro pulas, mi circau bracas vin. Comune, gioia plena e vivas ni, mes nocte cae mes tage, vin caressi volas mi. Fine, giu en ciela lit, nidu en accordo, en bella religios.
Yes. Hein? Do bone, ni audis tiun canzonon de Glomp.
Yes, tiu là.
Yes, Ralph Glomp. Mi esperas ke mi retrofos la titolon ki un di jus lanchis devas mi el la urbo. Voilà.
Non.
Ouais, je dois partir de la ville. Ah. Voilà. C'est le titre que nous a chanté Ralph Glomp.
Et Blestas Sage de Tsido.
Ah, yes. Nine auscultis la paroloin. Yes, c'est la canzone. Nour la Rion. On a écouté l'air, mais on n'a pas écouté donc le fond de la chanson. Hein. Devas mi el la urba. Voilà, je dois. Mm. Partir de la ville.
Mm-hmm. Voilà. Donc, ni ni jam multe paroli pri la communum de Paris, ok, nun eble ni devas iomete paroli pri ĝi. Concerne la rencontigioi de la decna ou agista du dectria de Julio en Saint-Imier.
Yes, baldao.
Do baldao, facte, char ni povas diri que la sanga semaino de la comunimo de Paris, odo tio estas la momento qui am estas nova registar o tiem qui estas un registar o de tiers qui poste estos la registar o de Macmahon qui estas terror a registar e comprenable qui en 1871 do facte Karl Marx scribas la guerre civile en France, hein.
Yes.
Que tu check tes tu libre estas très favorable à la communum ou que estas quaso presque anarchiste libre cette poste verchaine libédor ce qu'elle scribistienne ministres que de nouveau veut dire ven à celle la internet si ok décidas tu estas en 1872 ou 1872 l'idée de Sidas forigui de l'internet si où la personne qui a eu tout un éplat de chasse à l'île tu sais que personne n'est à ce principe et ni dire au Bakounine qui a eu un chaos James Guillaume qui a eu comprenable Karl Marx assisterait à autorité de sa personne qui a eu l'hypensis qui est la stratégie on y dire ou la que la devas estitia que tu devas obéir que estas do autoritat a sinteno do tio kunveno tio congresso de la unua internacio en Londono. Ok, c'est en London. Qui est en London, au dos, on y forigas, la néautoritate, c'est une personne. On y peut aussi me dire que fine de la communum, ou estis, ou femme, comité de salut public, qui pro stratégie aïkial, ou diris, do, nous, n'y estas perdante la militon, qui est, do, n'y devas avis tout est. Tout est militiste en Sinten, qui do estis qui estis favor à yeltiu militiste à Sinten, qui estis mal favor à yeltiu militiste à Sinten, do estis qui on y nomme la majorité, qui la minorité, la majorité estis favor à l'autorité à Sinten, qui la minorité estis mal favor à yeltiu. Donc, on y peut dire qu'il y a une fine de la communum qui on m'y nomme la querelle de la justule. Hein?
Yes.
Donc, tu aimes, on y a une vidas qui au cas où se poste qu'on a une internet si au char. Tu as une internet si où est-ce à se faire intérêt à char en GSI, non? Est-ce à se. Estas blanquistoj, estas prudonistoj, estas internaciistoj, estas jakobinistoj, estas do multaj diversaj skoloj kiuj fakte grumblas unu kontraŭ la alia, sed tamen restas en la sama asocio.
Yes.
Que tio estas vere interesa. Sed ekde 1872, do, ni vidas que estas la fino de la unua internacio, autoritata internacio, que, facte, tio unua internacio malaperos, que renascidjos en 1889, que tiem estos la dua internetio, que la dua internetio, estas quasi qu'il dirait staliniste à internetio, mais il y a trop, estas tre autoritat à internetio.
Yes.
Donc, qui am Bakounine, qui James Guillaume, qui a lié, il comprenable, estas forigita et des tio ou non internetio, il comprenable mal acceptation, kai tiem ni ne plu estas en Londono, ni estas en Saint-Imi. Estas la, yes. Estas la joa, sa, estas la, la, la joa sa parto de Suicio, tu ne?
Do, yes, yes, yes.
Kai en Saint-Imi, do, construit just tiu internet sio ne autoritata.
Mm-hmm.
Tiem, yes. Do, jen kion ni povas, jen kion ni povas ziri, do, je unu flanko pour paroli rapide et comprenable, il y a un flanco Londono, qu'il y a un flanco Saint-Imier, qui est nous comprenable, une parole à ce prix Saint-Imier. Charles n'y parte auprès de Saint-Imier, comprenable, ni Havos Boudon, qui vous parle à ce prix Esperanto, évidemment, et bien, ni Pau Saint-Cao, à l'oudi prix facto, qui concerne la, ni dire, ou la nasquille, je ne des tio ou non internet sio que mi c'est tio intéresse à ce niveau de ce ni havas respond don portio mi antaovidas quelqu'un une prélègue une ni pas vous faire mi diront tu n'es
yes yes yes
donc ni pas vous présenter la historion de la ou non internet sio gis gis tio période de 1872 que tio est-ce suffice construit à faire au mieux mieux pignes ni pas vous sans que parole ni dos est-ce ce doit prélègue ni pas vous parole il prit la origine de la commune que en la origine de la qui est en la qui contre la commune ou est-ce qu'var contre ou il y en peut se dire est-ce la qui est-ce favorable à la région chou est-ce favorable à la région pour la facto qu'il y a mais dit se dire chou favorable à la région proti OK il est à scène capitaliste à sinteno chou Tu estas respublicano qui estas quel dirait réactionnaire républicain estas suffice proxima des tiouy registre qui tiouy registre favor à tchné qui on nomme as orléaniste hein
c'est
bien opinion ce que rodio ni pas vous dire qui tiouy qui est rejo chune qui est favorable au capitalisme do est orléaniste on y peut dire que Macron il est certain vite point est orléaniste chune est c'est la sama direct au qui est tiers né qui est Charles X c'est qui est tiers yes qui est San Kaou la bonapartiste qui est favorable à l'armée qui au niveau de ce qui est dum tiu periodo qui dirait la qui a mon niveau de ce qui est registré au mon idée à ce prépense si priti au chodier ou qui a mon registré au centas qui est G Fallos
yes
qui a mon qui on y faras qui on y proposas y proposas militon
yes
qui a ni pas vos habitudes une macluetti je nous tu donc et bien ni pas vos paroles y priti au origine de la communum qui a montré tu y far tu veux voir scolo il ne peut vous dire qu'il y a avec des 1800 tridec gis 1870 nous chez en qui a 1800 tridec char 1800 tridec est ce le moment où qui a on est capable à dans quel la vapeur machine transporte très mal proxime et varoine qui est où est-ce la capitaliste à Sinten ou est-ce ça
yes
yes avec des accents très ni pour vous sans qu'au parole il ferait prélègue on prit la virine et donc et bien il fera aussi une prélègue une chose ennemie mi fera ce propos nous prit la virine qui a pris la libéro de la virine il y a un petit moment de la commune de Paris qu'il ça s'intéresse à Chartier on y peut pas constater que on y peut pas constater que la virine acquiert spli pour ses rights un petit période qui a miné à vis la voce de right all antao qui a posté tu sais la facto qu'il dirait bataille pour ses rights est as multiplifique au le vote donné tu est assez évident à faire ni pas vous sans qu'au parole il prit la clouboy je sais
yes
la clouboy ça s'intéresse à charles estas recta démocratie je sais Kei ni povus anche o paroli pri tiu fama que verelo de la justulo, che un minom as verelo de la justulo, qui u facte montras la la vere malsametso inter la malsametso inter quel dire inter autoritatulo qui est ne autoritatulo. Donc yen qui ni povus se fare. Parolante pri la clou, yes, ni havas encore quelques secondes. Parolante pri la clou, estas interesse à montrer que, en tiu momento, du monicias que nous, en la constitutio de 1950, que estas articolo, qui estas articolo d'Udexep, qui montras que la, qui diras que la, la mandate la mission la recta mandato estas nulla dum la communum il chem vojdonis il vojdonis por io la politique on peut dire
yes
la politique couloir au niveau de jeunes sport, il avait mission, qu'il devait honorer une mission, que c'est il est honorer une mission, tiens, il est tout simple et forgé titane. Donc, bon, je vais te dire un petit peu en français, donc yes. ce qu'on a dit, donc c'est que nous avons beaucoup parlé de la Commune de Paris, parce qu'en fait, les rencontres du 19 au 23 juillet seront des rencontres qui sont liées à la naissance de l'internationale anti-autoritaire. Hein. Oui. Et cette internationale anti-autoritaire, en fait, naît principalement, enfin, on a déjà parlé la dernière fois, parce qu'on a assez. On a lu un texte assez long, hein. Donc enfin le texte oui, en fait de la naissance de cette
la petite brochure, ouais.
La brochure, cette première internationale, ouais. Et donc en fait on a vu que bon, on a d'un côté Londres et de l'autre côté disons la Suisse jurassienne, quoi.
Hein. Exact. Donc,
alors à Londres on a plutôt la première internationale dans ce cas-là d'autoritaire. Et par contre, les anti-autoritaires sont plutôt du côté du Jura suisse, et donc en l'occurrence de Saint-Imier, puisque c'est à Saint-Imier que naît justement cette première internationale, cette internationale, pas cette première, c'est toujours la même, hein. C'est l'internationale anti-autoritaire, quoi, voilà.
Et c'est riche quand même en congrès, quoi, ouais.
Et c'est riche en congrès, oui, c'est vraiment très intéressant, quoi, donc...
Oui, oui.
Donc Londres et Saint-Imier, on va dire, hein, pour aller un petit peu vite. Hein, voilà,
oui.
Donc Londres, Marx et Engels, hein, et puis Saint-Imier, donc, on a des figures importantes comme il y en a beaucoup, hein, je veux dire, on va citer Bakounine et James Guillaume. Quoi.
Donc
Bakounine et James Guillaume ayant été excommuniés, ayant été virés par Marx de la première internationale. Voilà. Donc je proposais une suite peut-être de quelques conférences, c'est beaucoup dire de causeries,
hein, oui.
Qui permettraient en fait d'avoir des dialogues et d'avoir des échanges, quoi. Donc l'histoire de la première internationale jusqu'en 1871, oui. Donc cette première internationale, oui. Voilà, donc il y a quelque chose qui m'énerve pas mal aussi, c'est qu'on a tendance souvent à attribuer la première internationale à Marx, comme c'était Marx qui avait fondé la première internationale. Alors, quand on voit les faits tels qu'ils sont, il y avait à l'époque une certaine haine des clercs. Je vais très très vite, hein, mais je veux dire, cette haine des clercs était liée au fait que les républicains réactionnaires avaient trahi en fait le peuple en 1848. Et donc, au moment de la première internationale, lorsqu'elle naît en 1864, il n'est absolument pas question de trouver des bourgeois ou des intellectuels dans la première internationale. Mm-hmm. Donc on demande clairement, mais fortement à Marx et à Engels qui essayent de s'introduire dans la première internationale, on leur demande clairement de fermer leur gueule, quoi. C'est très très clair par rapport à ça, quoi. Et donc ils sont obligés de se taire lors des premiers congrès de l'internationale. Donc dire que la première internationale est inaugurée par Karl Marx et Engels, c'est un mensonge absolu, quoi. La première internationale est inaugurée essentiellement par des ouvriers, quoi. Voilà. Mmh. Donc Et donc, bon, après, on pourrait peut-être un jour citer le livre de Sarah Al-Matari qui écrit La haine d'éclair. Un jour, il faudra qu'on en parle ici, parce que c'est vraiment un livre extrêmement intéressant. Voilà. Donc, on pourrait parler donc, de l'histoire de cette première internationale. Après, bon, disons que dans les rencontres de Saint-Imier, j'entends qu'il est question de parler de choses actuelles, etc. Mais je veux dire, quand on parle du passé, c'est toujours en relation avec des choses intellectuelles. Donc il n'y a pas les choses anciennes et les choses actuelles. Je veux dire, on parle toujours des mêmes choses, en fait. Et l'histoire, en fait, alimente le présent, quoi. Je pensais qu'on pouvait parler aussi des origines de la Commune, parce que ça permettait aussi de parler des quatre grands courants qui existent, donc de 1830 à 1871. Donc on va dire les républicains, les quatre grands courants réactionnaires, donc les républicains réactionnaires, ils en font partie. Hein. Donc il y a les bourgeois royalistes. Les royalistes qui, eux, sont des royalistes de type Charles X, quoi, voilà, et puis également les bonapartistes. Et ce qui est intéressant quand même d'observer, bon, là, j'en ai un peu plus, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'un courant politique devient majoritaire, il te dit qu'en fait, c'est la fin de l'histoire, quoi. En train de nous expliquer que le capitalisme est la fin de l'histoire, quoi. Il n'y a plus rien de possible. Ouais, donc c'est comme ça, il n'y a rien d'autre de possible. Mais les royalistes aussi, à l'époque, disaient que la royauté, c'était la fin de l'histoire, qu'il était impossible qu'il y ait un autre gouvernement qu'un gouvernement royaliste. Voilà, donc. Une troisième possibilité de causerie serait de parler des femmes et donc des femmes et de ce qu'elles font pendant les communes et de montrer que leur action concrète pendant les communes en fait leur permet d'obtenir davantage pour leurs droits que en quelques semaines que ce qu'elles vont obtenir en plusieurs années avant et après.
Exact.
Donc voilà, donc c'est et donc on peut parler de quelques femmes y compris avant la commune et après la commune, donc je pense particulièrement à la grand-mère de Gauguin qui était Flora Tristan.
Et dont
Marx a quand même dû pas mal s'inspirer pour écrire son manifeste du Parti communiste. Mais enfin, le problème de Marx, c'est que lui, il ne citait jamais les gens à qui il était redevable. C'est un peu énervant aussi. On peut en parler. On pourra parler également des clubs, pour parler de ce qui se passe dans les clubs et dans cette démocratie directe. D'ailleurs, que Marx appelait les gens qui étaient dans les clubs, il les appelait les braillards. Dans ces clubs, en fait, il y avait une démocratie directe, et quand on élisait quelqu'un, la personne était élue pour une mission, pour un rôle déterminé, et quand elle ne remplissait pas cet rôle, il était révoqué. Donc il y avait un mandat qui était à la fois impératif et révocable. Dans l'article 27 de notre Constitution, il est dit que le mandat impératif est nul. Notre constitution de 1958. Ça veut dire que vraiment on est sur... Non mais ça fait vraiment réfléchir ça, parce que personne ne parle de cet article-là, mais je veux dire, c'est quand même... Il est quand même fondamental.
Il est primordial.
Un jour on fera une sixième constitution, il serait quand même bien de le faire disparaître et de considérer que le mandat, il doit être impératif et les élus doivent être révocables.
Marc, on va redonner l'antenne, alors on va laisser la place à Yannick.
J'ai dépassé le...
Et nous, on vous donne rendez-vous là-bas
à Saint-Imier. Relancer l'appel quand même que les gens qui sont espérantistes donc pourront peut-être être employés pour faire des traductions des
oui pourquoi pas oui hein oui oui, donc, oui. Donc, et puis j'ai vu sur internet qu'il y a des gens qui proposent des places pour aller à Saint-Imier il y a des petites caravanes en voiture il y a des liaisons.
La semaine prochaine, donc il y aura pas de
voilà, il y aura d'émission, pas de, d'émission, hein, mais
et donc par contre l'autre semaine après, on aura une émission, on aura beaucoup de choses à dire.
Voilà, Dogis.
Dogis.
Gis.
Fartubone.
Yes.
Pardon, que mi estis iomete longa.
Je rebranche ici, mais je vois un jeu.
chemin, j'ai toujours pas de marque puissante. Ah voilà, ça y est, là, ça y est, ça. Oui. Alors, j'envoie tout de suite. Voilà, je laisse la place au-delà du RL. Voilà, notre ami Yannick est dans les studios déjà. Et on va passer un tout petit morceau. C'est parti.
Gacholo centja rulen diris mi agios milon. Havis nek domon li, havis nek familion. Diris naskigis mi dum la fulmotondro. Diris naskigis mi post vojaĝo tutmonda. La la la, la la la.